Il y a des hauts, il y a des bas. Ce générique me rappelle ce jeu qu'il y avait dans cette émission entre midi et le juste prix.
Le juste prix.
Avec le bonhomme là, tu sais, le yodel, il fallait donner un prix. Dès que tu te trompais, il montait par tranche de 10.
Exactement.
Il ne fallait pas qu'il tombe.
Surtout pas.
Voilà. C'est tout nous, c'est notre univers télévisuel et les jeux télévisés donc de TF1.
C'est ce que j'ai fait pendant les vacances.
C'était
que ça.
T'as regardé la télé et les jeux.
Exactement.
Je n'en doute pas. Il manque Interville. Hein, rappelons ce manque culturel à la télévision qui m'accompagnait chaque été en mangeant une glace, un cône, un petit cône.
Tu fais saigner mon cœur parce que c'est vrai que...
Bah justement, tu parles de sang, ça tombe bien, puisque nous allons parler de sang et d'autres perversions de l'être humain à travers une future expo qui se nomme L'Enfer. Je crois que la thématique est bien lancée pour accueillir Guillaume, bonjour.
Salut.
Donc tu es le directeur de la Fanzinothèque. Aujourd'hui, nous avons donc droit eh bien, à la direction de chaque établissement. Et la Fanzinothèque, elle aussi, prépare donc sa rentrée. Donc, eh bien, comme avec Yann, on va parler donc, du passé. De votre côté, j'imagine que le confinement vous a fait du bien, vous a fait du mal. Comment vous avez eu, quelles ont été les opportunités pendant ce confinement à la Fanzino ?
Sans provocation, il y a toute une partie de l'activité sur laquelle le confinement n'a pas eu de conséquences dans le sens où la Fanzinothèque est un lieu dédié à la conservation de documents. Et il y a tout un travail de numérisation et de traitement de données informatisées qui a pu être fait pendant cette période. Donc ce temps a été mis à profit pour avancer là-dessus. Par contre, il y a une frustration énorme, c'est celle de ne pas être ouvert au public. Et puis tout un pan d'activité qu'on appelle éducation artistique et culturelle, bon ben là, elle a sauté. Et puis ça, c'est très dommageable. Mais... sur le temps de confinement tel qu'on l'a vécu, l'activité a pu perdurer. Mais à l'échelle du site Confort Moderne, on a dû subir le fait que la grille d'entrée était close. Nous, notre vocation, c'est d'être ouvert le plus possible. Donc fatalement, ça, on l'a mal vécu. Mais comme l'expliquait Yann Chevalier tout à l'heure, on a essayé, enfin on a réussi d'ailleurs, à caler un temps d'ouverture le plus tôt possible dans le calendrier, de ne pas attendre, enfin un peu d'anticiper le fait de savoir à quelle sauce on allait être mangé. On a proposé, comme Yann l'a expliqué, des normes d'accueil qui fait que tout le monde peut se sentir bien ici. Comme l'espace est grand, on se sent à l'aise facilement, quoi, on ne se marche pas les uns sur les autres. Et on a synchronisé nos calendriers, ce qui fait que la Fanzinothèque a épousé les heures d'ouverture d'été du confort moderne qu'on a vécu en juin, juillet et août. C'est-à-dire une ouverture les temps de week-end, une nouveauté. On va peut-être réfléchir d'ailleurs à l'opportunité, après à des contraintes de ressources humaines, de fonctionnement général à appréhender. Mais un temps d'ouverture les week-ends, on a constaté que ça fonctionnait. Les nocturnes également ont bien fonctionné. Alors ce qu'on appelle les nocturnes, c'est plutôt des crépuscules, c'est-à-dire des couchers du soleil, c'était jusqu'à 22h. Je pense que certaines personnes, je cite, qui parlent de l'Europe de l'ecstasy, ont des notions de nocturnes beaucoup plus tardives que ça.
Les horaires ne sont pas tout à fait les mêmes.
Des nocturnes qui nous amènent jusqu'à l'heure du croissant, des croissants et du café. Et puis ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des gens qui étaient... des juilletistes et des aoussiens qui se croisaient à travers les routes et qui sont venus nous visiter et qui nous ont indiqué avoir quitté l'autoroute à la vue du panneau Poitiers et qui se sont dit on va faire une halte au confort moderne ou à la Fanzinothèque pour les plus pointus d'entre eux. Et ça c'est quand même une info qui fait plaisir quand les gens se disent voilà, on va visiter le lieu sans forcément savoir précisément ce qui s'y passe, mais ils se sont dit c'est un lieu. Alors évidemment, ce sont des gens férus de culture, je suppose, qui s'intéressent aux friches artistiques, aux tiers-lieux, que sais-je. Mais en tout cas, je pense que c'est une piste à creuser. Et on n'a pas débriefé encore, mais on pourra déjà se demander comment on peut augmenter notre proposition et être encore plus sexy l'année prochaine.
Sans malheureusement avoir plus de personnel pour pouvoir proposer des horaires d'ouverture beaucoup plus larges, la semaine, les week-ends, le soir, le matin.
On a un an pour s'organiser, on va faire en fonction des contraintes objectives et aussi en fonction des envies des gens, des possibilités, de voir de quelle façon on peut organiser les emplois du temps. Et de ne pas vivre en tout cas ces lieux comme des lieux qui devraient systématiquement fermer leurs portes mi-juillet pour les rouvrir début septembre. Ouais. On peut envisager un temps lissé comme ça.
Mais c'est vrai que par le passé, il y avait des événements qui étaient en corrélation avec la Fanzinothèque et ce qui se déroulait au confort moderne. Pendant par exemple le festival Les Playboyism en Cowboy, où il y avait un échange de savoir-faire par rapport à la Fanzinothèque, un échange culturel également. Mais ce n'était pas le cas récemment. Après toi, tu es arrivé au mois de septembre 2019.
Ouais, alors quand je suis arrivé, ce temps de coopération fonctionnelle était déjà existant.
Hein. Bien sûr,
il faut savoir qu'il y a, il y a une logique de coopération forte qui lie tous les habitants du site Confort Moderne de manière à minima à ce que tout le monde se parle et à ce que tout le monde synchronise ses calendriers, ses actions, ce qu'on appelle le projet. Voilà. Ça, c'est une partie, c'est notre cuisine interne, le public ne le voit
bien
pas.
Sûr,
ce, que, ce que le public expérimente, c'est que quand il arrive, il n'a pas une porte ouverte d'un côté et fermée de l'autre. Il peut expérimenter le lieu, le vivre dans un circuit logique. Concrètement, ça veut dire aller voir l'expo de Norbert Bisky que vous décriviez tout à l'heure, aller voir un atelier à la Fanzinothèque, aller boire un coup au resto, aller chiller dans le jardin, aller diguer les bacs de disques du disquaire Transat, etc.
Oui, qui est en vacances malheureusement, ou heureusement pour notre porte-monnaie. Je disais donc, tu es arrivé au mois de septembre 2019, donc le temps que tu prennes tes marques, tu t'es retrouvé donc enfermé chez toi pendant ce confinement. Malgré tout, ça t'a laissé du temps pour réfléchir à l'idée, ce que tu avais envie avec donc, les équipes de la Fanzino et du Confort Moderne, sur le devenir de la Fanzinothèque, qui existe depuis bien longtemps, qui est une référence.
Une trentaine d'années, ouais.
Donc du coup, qu'est-ce que tu as envie d'amener à la Fanzinothèque, toi ?
C'est pas tant l'imposition d'une vision personnelle.
Non, mais on vient avec des idées, avec une envie de faire des choses.
Ce dont je suis persuadé, c'est que ce qui fut un temps un média d'expression underground pur, si ce n'est contre-culturel, est devenu maintenant, au fil des années, du patrimoine. Et moi, je vis la collection de fanzines de la Fanzinothèque comme du patrimoine que nous avons vocation à valoriser, à montrer. C'est-à-dire que l'échec absolu, ça serait que cette collection devienne une collection poussiéreuse, qui ne sort pas, un truc de vieux schnock.
Ouais.
Et attention, une collection peut être poussiéreuse de manière organique, c'est-à-dire nos fanzines en papier, elle peut être poussiéreuse aussi de manière numérique. Il ne s'agit pas de tout numériser, puis avoir des PDF qui dorment quelque part sur un serveur ou sur des disques durs.
Et qui attendent bien qu'un jour quelqu'un s'y intéresse pour pouvoir les ressortir. Ouais.
Alors notre idée, c'est réorganiser un peu tout ça, puisque le fond de la Fanzinothèque, il peut faire un peu peur quand on ne sait pas de quoi il s'agit. Il est ici... c'est extrêmement chargé en information, la Fanzinothèque. Donc nous, notre idée, c'est de présenter tout ça un peu en tranche, hein, de saucissonner pour montrer tout ça de façon plus relaxe et puis l'organiser en thématiques. Ça peut être des monographies, ça peut être des thématiques sur une branche des cultures alternatives. On l'a fait à échelle un peu réduite cet été, puisque pour dynamiser un peu l'activité, on a présenté une expo différente chaque week-end. À chaque temps de nocturne, chaque vendredi, on présentait une nouvelle expo. Alors c'est sûr, le rythme a été intense, mais ça a permis de montrer aux gens la diversité que peuvent prendre les fanzines dans leur forme et dans leur fond. Et c'était aussi une façon de répondre à cette frustration de ne pas pouvoir manipuler les fanzines dans le sens où la bibliothèque n'était pas accessible aux petites mains puisqu'on est obligé de s'aligner sur les normes anti-Covid-19. On ne tripote pas les choses.
Ouais.
On a dû privilégier tous, autant qu'on est ici, les formes type exposition murale derrière des vitrines ou multimédia, etc. Alors concrètement, le premier week-end, pour faire écho à la venue de Norbert Bisky, on a fait une exposition thématique fanzine où on a sorti par exemple des fanzines de punk de la RDA avec des témoignages assez poignants d'ailleurs de groupes punk qui racontaient comment ils se faisaient salader par les services secrets, comment au sein du groupe ils ont découvert après la chute du mur et la déclassification des documents qu'un des membres était informateur pour la police politique. Enfin, le fanzine, c'est un truc un peu rigolo, potache, mais c'est aussi une façon de documenter des histoires réelles, parfois poignantes.
D'où la notion de patrimoine, effectivement, puisqu'il y a des choses qui sont racontées à une époque et qui font sens quelques années plus tard. Par contre, il ne faut pas entendre comprendre le mot patrimoine comme quelque chose de très institutionnel. Le fanzine n'est pas mort, le fanzine continue d'exister, il y a encore du fanzine. Donc c'est quelque chose d'assez vivant et d'évolutif.
Nous on en reçoit encore, on reçoit une centaine de nouveaux items par mois. Alors le fanzine c'est un terme générique, hein. Ça peut inclure de l'auto-édition, des journaux de voyage, mais l'idée générale c'est qu'il s'agit de publications amateurs faites par des fans qui ont envie de documenter un sujet spécifique qui ne retrouvent pas ailleurs. Il n'y a pas de cahier des charges du fanzine, il n'y a pas de normes européennes du fanzine.
Étant toi-même un fou fondu du fanzine, un créateur de fanzine, est-ce que tu as vu une évolution du fanzine dans ces années-là, qu'elle soit graphique, la forme, je sais pas, le support,
Ce qui est sûr, c'est que la généralisation d'internet, des blogs et des webzines au début des années 2000 a entraîné un effondrement des fanzines musicaux qui ne faisaient que décrire la musique. Mmh. Quel intérêt de décrire la musique alors que maintenant il suffit de se mettre sur Bandcamp et de l'entendre en quelques secondes. Ceci dit, je crois qu'il y a un retour du fanzine là qui est dû à une volonté. Le lecteur est satisfait d'avoir en main un document qui va éditorialiser, qui va ranger un peu l'information. Quand on est face à un flux interminable comme son flux Instagram, Facebook, ce robinet qu'on n'arrive pas à éteindre, il est parfois rassurant d'avoir un fanzine qui va dire « Mec, je sais que tu aimes ce style musical, de la page 1 à la page 48, j'ai tout rangé pour toi, de tout ce qui est sorti ce mois-ci, relax, voilà qui va t'aider dans ton jugement. » Donc les fanzines qui perdurent, qui restent intéressants, c'est ceux qui ont ce pouvoir préconisateur, et puis ceux qui ont, je l'espère, du style, de la personnalité. Moi, ce que j'aime bien, c'est de voir, je suis ravi de voir qu'il y a, comme un peu partout dans la création maintenant, mais de plus en plus de filles qui s'y collent, ce qui change un peu le regard. Le fanzine comme on va dire objet d'art aussi et de connaît un renouveau énormément, je veux pas les caricaturer cette scène, mais appelons ça des étudiants nouvellement diplômés des beaux-arts, des élèves des beaux-arts qui vont choisir le fanzine comme élément d'expression. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir une forme plastique, tridimensionnelle, une sculpture ou coller une peinture au mur, ils vont se servir du fanzine pour montrer leur art. Leur démarche n'est plus la même que celle d'un punk qui voulait faire un fanzine sans profit dans les années 90.
Bien que le milieu punk nous ait proposé des fanzines entre guillemets dits artistiques, souvent en tous les cas dessinés pour faire face à un texte, à une chronique de disque ou autre.
Le punk, c'est le mouvement qui est le plus représenté dans l'histoire du fanzina. Donc on va y retrouver toutes les expérimentations, notamment en termes de présentation formelle.
Nous avons donc, on vous a fait découvrir l'univers donc, du fanzine en compagnie de Guillaume, le directeur de la Fanzinothèque ici donc, à Poitiers, au coin fort moderne. Je vous invite bien entendu à visiter leur site internet. Vous pouvez même découvrir, si vous le souhaitez, eh bien, des fanzines en PDF, ce qui est beaucoup plus triste que de pouvoir eh bien, toucher le papier et de voir un petit peu le format, les textures, les textes.
L'odeur.
L'odeur, et c'est vrai, l'odeur. Non, mais on oublie, mais l'odeur du papier, de cette impression, dérange, et certaines personnes sont archi fans justement de cette fameuse odeur qui est peut-être une forme de Madeleine de Proust pour certains d'entre vous. On va parler donc de cette rentrée, de cette date donc, du 11 septembre, puisqu'il y aura également une exposition à la Fanzinothèque, et pour la première fois, ce sera donc une exposition que les jeunes gens ne pourront pas voir, puisqu'elle sera réservée à un public de plus de 18 ans.
Alors, il n'y a pas de mention d'âge, c'est-à-dire que l'écriteau devrait se libeller ainsi... entrée réservée à un public adulte et averti. Et chacun peut apporter sa définition de ce qu'est un public adulte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront capables de regard intelligent, de distanciation, de capacité à absorber des images chocs à 14, 15 ou 16 piges. Tu as des gens, ils pourront aller vers la pré-retraite active et ils n'auront toujours pas compris, ils vont s'offusquer de voir... une image crue. Je ne veux pas avoir du jugement de valeur, hein, c'est peut-être parce qu'ils ne se sont pas créé les conditions d'avoir l'éducation nécessaire. Ça, c'est,
C'est vrai. Mais bon, voilà. La notion d'âge est très dérangeante.
Voilà, dire qu'à 18 ans, et toi, l'âge, le jour de tes 18 ans, bon, d'un seul coup, tu es capable d'absorber telle image, bon, ça serait... personne ne le croit, ça.
Non, personne ne le croit. Tout est une question de maturité et de culture, bien entendu.
Et puis d'avoir envie, parce que personne n'est obligé. Personne n'est obligé de devoir voir. Bon, à l'occurrence, je ne vais pas tourner autour du pot. L'exposition va présenter des œuvres graphiques, des fanzines. Hein. Il s'agit de la mise en valeur de notre collection, toujours, pour lesquelles les auteurs sont allés taper dans un imaginaire extrêmement transgressif. On a appelé l'expo « L'enfer de la fanzinothèque ». J'espère que tout le monde comprendra que le terme... inclut un peu d'ironie, parce que l'enfer était le terme consacré dans les bibliothèques à l'endroit où étaient déposés les ouvrages que les bibliothécaires eux-mêmes considéraient comme étant impropres à la mise à disposition du public. pour différentes raisons. La première étant ce qu'on pourrait appeler l'obscénité, le fait que ces ouvrages pouvaient choquer la morale, la bienséance, ou alors pour des raisons politiques éventuellement. Voilà. Donc on s'est posé la question de savoir si la fanzinothèque avait son enfer, sachant que tous les fanzines, tous les ouvrages auto-édités, tous les livres que nous allons présenter dans cette exposition, ils sont tous issus du fonds de la fanzinothèque qui est disponible. C'est une bibliothèque associative, la fanzinothèque, à tout un chacun, à tout moment, sans censure. Par contre, avec un sens général de la responsabilité. Responsabilité du lecteur, responsabilité de l'asso qui met les livres à disposition.
Alors justement, l'enfer de la fanzinothèque a été facile à sortir de ces milliers de fanzines. Est-ce qu'il y avait déjà un coin qui se dénommait l'enfer là, auprès de la fanzinothèque?
Non, là, il n'existait pas. On laisse la surprise aux visiteurs, mais il y a un ouvrage qui n'a, donc un sur 60 000, qui n'a pas intégré la collection. C'est Marie, notre documentaliste, qui l'a mis de côté pour des raisons politiques. Voilà, elle a estimé qu'on n'avait pas elle n'a pas fait rentrer dans la collection. C'est son choix. Elle nous expliquera sans doute pourquoi. On va inclure ses arguments, je pense, au catalogue de l'exposition. Il a été extrêmement facile de concevoir l'expo. On a eu plus de matériel que de places disponibles. Tous ces ouvrages, comme je le disais, sont dans nos rayonnages. Ils ne sont pas rangés dans un endroit qu'on appellerait enfer ou pornographie ou provocation ou quoi que ce soit.
Ou interdit au moins de 18 ans.
Par contre, certainement pas. Par contre, on se rend compte que certains éditeurs sont extrêmement représentés. Je pense à Bon Goût de Berlin. Je pense au Dernier Cri de Marseille. Peut-être Chacal Puant de Blanquet. On a des spécialistes, des amateurs, des récidivistes, peut-être des pervers, je ne sais pas. En tout cas, assurément, des éditeurs qui ne connaissent pas la censure et l'autocensure. Ça, c'est
ce que je voulais demander, pourquoi ces éditeurs-là reviennent et sont très représentés dans cette future expo? Est-ce que c'est quelque part leur ligne éditoriale? Ça me gêne un petit peu, mais est-ce que c'est un sujet, des thématiques qui reviennent régulièrement dans l'esprit de ces créateurs-là?
Moi, je pense que au fil des années, leur ligne éditoriale est telle qu'ils se sont spécialisés dans la représentation d'imaginaires torturés. Et que ce qui les intéresse, c'est aller voir des artistes qui ont des visions et qui n'hésitent pas à faire appel à leurs fantasmes les plus tordus. Après, le débat, il est vieux comme l'histoire de l'art. Savoir si ce que l'on montre, ce sont des projections d'esprit ou des modes d'emploi pour passer à l'acte.
Exactement. Ben justement, on va plonger dans cet enfer tous ensemble et découvrir quelles sont les perversités que vous allez pouvoir découvrir à travers cette exposition nommée L'Enfer, puisque tout est représenté. Nous avons droit donc à la zoophilie, au scato. Oui. On a droit vraiment à des choses... personnellement, je ne trouve pas choquant, puisque ça fait partie, non pas de notre quotidien, mais du moins de la vie des hommes.
Alors, quand même, cette exposition, elle a un côté casse-gueule. Alors, il y a un côté, on donne de bâton pour se faire battre, soyons clairs. Donc, l'archétype des projets casse-gueule, c'est qu'on se casse la gueule. Si moi, je me partais comme ça à décrire ce qu'il y avait et à le dire de manière crue, ça serait vécu comme de la pure provoque. C'est pour ça que j'invite plutôt les gens à... aller regarder ces fanzines et puis tout simplement en tirer eux-mêmes les conclusions qu'ils veulent. Après, si on parle de contenu, ouais, il n'y a pas d'autocensure, il n'y a pas de censure, donc tous les thèmes peuvent être abordés. Effectivement, on peut retrouver un cochon comme partenaire sexuel. Donc, par contre, il y a des kilomètres de là à dire qu'il s'agit d'une représentation réelle et encore moins d'une apologie de la zoophilie, évidemment.
Un cochon qui bande, ben oui, puisque le cochon peut être un symbole représentant ce que l'on a envie.
Si on commence à prononcer le mot symbole, là, je pense qu'on commence à être dans la bonne voie, en tout cas.
Je trouve ça bien, effectivement, que tu abordes ce sujet-là de provocation gratuite, puisque par rapport à l'exposition tout à l'heure dont nous parlait Yann, je pense qu'il peut y avoir également ce genre de réaction autour de la provocation gratuite, un sujet qui est souvent abordé dans l'art et dans l'art contemporain, même si derrière tout ça, malheureusement, l'argumentation est plutôt faible, puisque c'est bien de dire ça, mais il faut pouvoir donc l'argumenter. Là, en l'occurrence, vous proposer justement des œuvres que vous avez donc décidé tout simplement de réunir sur une thématique. Est-ce que quelque part c'est un sujet qui vous est venu là encore par rapport à ce que l'on vient de vivre actuellement, par rapport à cette année 2020 qui est tellement pourrie, et l'envie de se dire on est vivant, on a des perversités, on a des choses très bien à partager, à mettre en avant, voilà qui sommes-nous ?
Réponse non, ce n'est pas la genèse de cette expo. Il se trouve que certaines de ces fanzines, certains de ces livres étaient ici exposés sur les consoles, le mobilier que l'on a. N'importe quel visiteur, y compris un groupe de scolaires par exemple, pouvait tomber dessus. Donc on a eu une discussion de savoir qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas. Alors quand je dis qu'on ne montre pas, ça veut dire qu'on le cache, qu'on le mette précisément dans un enfer, mais tout simplement on le range dans les rayonnages. Donc on a eu cette conversation et puis on s'est dit de quel droit pourrait-on cacher une autre bibliothèque, se poserait-elle les mêmes questions? La bibliothèque municipale posséderait-elle seulement certains des ouvrages que nous on montre? Et on s'est dit que faire une expo, c'était l'occasion de créer le débat chez nous-mêmes et chez les visiteurs. Donc on vit cette exposition comme une sorte de cabinet qui est une invitation à mener une réflexion collective. Et puis on va essayer de documenter un peu. Alors on n'est pas une université, j'ose pas dire qu'on va publier des actes, mais on va quand même essayer de tirer un petit bilan de tout ça, quoi. Et évidemment la passerelle existe avec l'exposition Gorjous d'Arja Bayadjic que propose l'association LOH de l'autre côté de la cour, parce que je pense que les mêmes genres de questions vont émerger, quoi. Mais il faut savoir que la fanzinothèque a eu déjà présenté des formes extrêmes. Je pense à une expo Fredox que l'on a faite, un artiste graphique majeur de l'éditeur Le Dernier Cri. Là, c'est la photographie que tu as jugée particulièrement choquante, celle qui est derrière la bouteille. Donc on y trouve des codes graphiques. Il y a eu toute une expo qui a déjà été présentée par la Fanzinothèque, donc bien avant mon arrivée, ici même au Confort Moderne. Le entre guillemets, le carton d'invitation pour cette exposition était un sac à vomi sérigraphié.
C'est une excellente idée. Il y a eu la même chose pour le mariage de Kate et de William en Angleterre. Le sac à vomi est un très bon moyen de communication.
Faut croire.
Que ce soit pour un mariage de princier ou bien pour une exposition nommée L'Enfer.
Bon, j'espère que les gens comprendront qu'il y a aussi un peu d'humour et de distanciation derrière tout ça.
Je l'espère aussi.
Moi, en tout cas.
Après, ce bilan, est-ce que vous avez envie de tenir, de prendre en compte les discussions qu'auront les gens une fois qu'ils auront vu les deux expositions, de discuter avec eux, de prendre des notes, de voir un petit peu l'argument de chacun?
Alors, je pense que l'échange avec les visiteurs, c'est une norme ici. Il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, des médiateurs culturels, dont c'est le métier, qui sont là pour accueillir, pour laisser les gens visiter librement s'ils le veulent, et puis au contraire, les épauler dans leur découverte des œuvres s'ils en ont besoin. Donc déjà, le dispositif existe, on va dire, en amont. Et puis... Et puis ensuite, pour pouvoir débriefer en quelque sorte, on va mettre en place un livre d'or, tout simplement. Et puis, comme je disais, éditer des actes. Alors, ce ne serait-ce qu'un compte-rendu en ligne et puis sans doute, en ce qui nous concerne, un petit fanzine. Et on est également sur le calage d'une table ronde, là.
Ah, mais c'était ma question d'après. Est-ce que vous pensez organiser... une soirée débat suite à
c'est ça,
une
ça
semaine
plus
une d'ouverture de
ça
l'exposition.
Serait plus une après-midi, mais c'est exactement ça.
Pour confronter donc les idées et les différents avis que peuvent se faire donc le public qui viendra visiter ces expos.
Il reste à trouver un bon modérateur ou une bonne modératrice pour recadrer à chaque fois.
Alors, oui, et à condition également qu'il y ait des idées qui s'opposent ou une vision différente en tous les cas des choses par rapport à...
Aucun problème. Là, il suffisait de mettre ne serait-ce que deux personnes de la Fanzinothèque au moment où on préparait l'expo pour qu'il y ait des points de vue différents.
D'accord. Ouais. Okay.
Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas fait tout seul. Hein.
Oui.
Il y a deux documentalistes, Grégor et Marie, qui ont travaillé en amont. Il y a deux personnes en mission de service civique, Léna, Marie-Lou, et un stagiaire, Lucien, je salue tout le monde, stagiaire en histoire, qui ont travaillé, et un régisseur, Gilou. Donc il y a du monde qui est impliqué dans cette préparation. Et si on nous met tous autour de la table là et qu'on refait le débat, on n'aura pas les mêmes arguments. Ça se trouve, on ne sera même pas d'accord sur la façon dont nommer les parties de l'expo, si ce n'est l'expo elle-même.
Écoutez, je vous invite donc à venir grandement donc réfléchir et découvrir donc ces différentes expositions qui vous seront proposées donc le 11 septembre à partir
jusqu'au 15 novembre en ce qui nous concerne.
Oui.
Donc on a le temps pour visiter.
Oui.
Je me tourne vers Yann qui va me dire jusqu'à quand dure l'expo à Gorjous.
Décembre.
Décembre, fin décembre, nous dit-il. Donc prévoyez un automne au confort moderne à Poitiers.
Oui, exactement. Et profitez, veillez donc avec la programmation musicale. Comme ça, ça vous fera bien un petit voyage. Le tout en se posant donc au restaurant, en buvant donc l'apéritif, une fois que vous ayez découvert donc, eh bien, ces deux expositions. Et en attendant donc le concert. Mais ça, on aura l'occasion de vous reparler de la programmation musicale de cette rentrée.